À votre avis, quelle est la littérature la plus importante pour vous? Non, mais vous n'êtes pas convaincu là. Quelle est pour vous la littérature la plus importante pour vous? Parce que si je dis quel est le livre, vous allez tout de suite comprendre. Alors, quelle est pour vous la littérature la plus importante? La Bible. Mais il faut le dire, mes amis. C'est la Bible. Vous permettez que j'enlève ma veste? Merci. Voilà, donc, c'est vrai que la Bible, le livre, ou l'écriture, ou la parole de Dieu, ou les saintes écritures, ou le saint livre, c'est pour nous le livre le plus important. Et c'est pourquoi, mes amis, nous sommes le peuple du livre. Est-ce que vous le savez ça? Nous sommes le peuple du livre parce que dans ce livre est révélé le Dieu vivant et vrai qui nous appelle à le connaître dans une démarche de foi. Lorsque j'ai manifesté une démarche de foi envers le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ, j'appartiens au livre. Le livre, mes amis, est la chose la plus importante. Parce que notre foi est basée sur ce Dieu qui s'est révélé. Mais alors, nous sommes convaincus, nous le savons, que nous sommes le peuple du livre. Mais sommes-nous prêts à vivre le livre? C'est là la question, mes amis. Je suis le peuple du livre, mais est-ce que je suis prêt à vivre le livre? C'est vrai que nous sommes tous d'accord que d'un bout à l'autre du livre, donc de la parole de Dieu, de la Bible, se révèle Jésus-Christ. C'est vrai que l'Écriture nous parle que de Jésus-Christ. Lorsque on l'écoute avec une oreille de foi, d'un bout à l'autre, de la Genèse à l'Apocalypse, il est question de Jésus-Christ. Mais sommes-nous convaincus qu'il est notre modèle à vivre, notre modèle à imiter? Voulons-nous ressembler à Jésus-Christ? Quelle est l'importance du livre dans ma vie? Quelle est l'importance du livre dans ma marche chrétienne? Pourquoi l'Église persécutée? Et l'Église persécutée, ce sont des chrétiens qui souffrent, qui sont persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Alors pourquoi l'Église persécutée trouve-t-elle le courage et la force de tenir ferme? Pourquoi l'Église persécutée est capable de tenir debout spirituellement alors que la tempête fait rage, alors que les difficultés sont là? Pourquoi? Parce qu'ils aiment la parole de Dieu. Parce qu'ils ont compris que la parole de Dieu est un vrai trésor, que c'est leur trésor. Parce qu'ils savent que c'est dans la parole de Dieu, donc dans le livre, qui vont trouver toutes les ressources nécessaires pour avancer jusqu'au bout. La parole de Dieu. Et j'aimerais lire avec vous dans le psaume 56, le verset 5. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Et l'Église persécutée a compris, mes amis, que leur force, l'encouragement nécessaire pour tenir face à la persécution, c'est dans le livre. L'Église persécutée, non seulement ils sont le peuple du livre, mais ils vivent le livre. Jour après jour, ils vivent le livre. Contrairement à ce que nous pensons, la persécution survient non pas dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous ne faisons pas. Nous connaissons tous l'exemple de Joseph. Joseph, avec la femme de Potiphar, il a été injustement accusé, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il n'a pas fait. Parce qu'il a mis sa confiance en l'Éternel. Il a préféré être rejeté que de commettre un acte terrible. Rappelons-nous aussi l'histoire des amis de Daniel dans la fosse. Non, pardon, les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Daniel, lui, il a été dans la fosse, mais ses amis ont été dans la fournaise ardente. Rappelons-nous l'histoire de ses amis. Comment ont-ils trouvé le courage et la force de ne pas se prosterner devant la statue ? Dans leur obéissance à Dieu. Parce que les amis de Daniel vivaient le livre. Ils vivaient le livre, mes amis. Et c'est comme à l'heure actuelle. Il y a beaucoup d'exemples d'hommes et de femmes qui aiment Jésus, qui sont persécutés, mais qui trouvent le courage de tenir ferme parce qu'ils aiment le livre, parce qu'ils vivent le livre. J'ai un petit canevas où il y a beaucoup d'histoires, de témoignages. Et si vous permettez, comme Jacques est celui qui nous représente auprès de cette mission, à chaque fois que je ferai appel à un témoignage, je demanderai à Jacques s'il veut bien lire le témoignage pour nous, s'il te plaît. Tu viens là. Tu prends un micro. Et c'est vrai qu'en tant que chrétiens, nous avons besoin d'entendre des témoignages d'hommes et de femmes qui, sous la persécution, tiennent ferme. Alors, pour l'instant, voilà. Tout à l'heure, je dirais. Alors, mes amis, si nous savons que ce livre, donc la parole de Dieu, est utile pour nous, elle est utile dans quel sens? Mais la parole de Dieu, le livre, va nous aider à augmenter notre foi. Pourquoi? Parce que l'enseignement de la parole de Dieu va fortifier notre confiance et notre assurance dans la personne de Dieu. Lis le premier témoignage, s'il te plaît.
Les chevilles menottées pour avoir transmis une méditation biblique
Merci beaucoup. J'aimerais lire avec vous un texte dans Chroniques chapitre 22. Chroniques chapitre 22, le verset 13. Bon, on ne va pas tout lire, hein, mais pour ceux qui prennent des notes, notez le passage. Hein, 1 Chroniques 12, 22, verset 13. Où David exhortait son fils Salomon à ne pas négliger l'observation de la parole de Dieu. Et observer la parole de Dieu, mes amis, c'est le secret de la réussite, le secret de la fermeté. Aussi dans Ésaïe chapitre 46, versets 8 et 9. Ésaïe 46, versets 8 et 9. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps, dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Et la parole de Dieu augmente notre foi en nous rappelant les promesses de Dieu. Lorsque nous passons par des moments difficiles, lorsque nous passons par de l'hostilité, il est bon de se rappeler que Dieu est fidèle, que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. C'est en ce sens-là, mes amis, que la parole de Dieu, donc le livre, va augmenter notre foi. Deuxièmement, le livre va nous aider à faire de bons choix. La vie est faite de choix, des petits et des grands. Nous sommes tous appelés à faire des choix. Mais face à la persécution, mes amis, il est très facile d'abandonner, de renoncer à ses engagements, de perdre courage, de revenir en arrière, finissant par renier notre foi. En deux mots, face à la persécution, il est facile de faire de mauvais choix. Et ça, c'est la tentation humaine. Humainement parlant, devant les obstacles, on renonce. Mais gloire à Dieu, mes amis. L'écriture, le livre, la parole de Dieu va nous aider en nous éclairant et en nous donnant la sagesse de toujours faire le bon choix. Un autre témoignage.
Zarik est le fils aîné d'une famille musulmane aisée de Java occidentale en Indonésie. Il s'est converti au christianisme après une étude comparée du Coran et de la Bible. Quand Zaki est né, son père avait de grandes attentes à son sujet. Zaki était le fils aîné du fondateur d'une école islamique réputée. C'est ainsi qu'à l'âge de 8 ans, Zaki a commencé à étudier l'islam. Il considérait les chrétiens comme des infidèles. Quand il entra à l'université, il n'avait cesse d'essayer de convaincre les étudiants chrétiens de se convertir à l'islam. Mais un jour, dans une discussion avec l'un d'entre eux, il a été frappé par la fermeté de sa foi en Jésus-Christ. Cet étudiant avait l'assurance qu'il était pardonné par Dieu et que son âme serait sauvée d'un enfer éternel. Zaki resta sans voix devant une telle assurance, car lui-même ne savait pas ce qu'il adviendrait de son âme après la mort. Dieu allait-il lui pardonner? Il n'en était absolument pas persuadé. Comment ce chrétien pouvait-il se tenir un tel discours, se demandait-il. Zaki a voulu en savoir plus sur Jésus. Il commença à chercher ce qu'en disait le Coran, puis la Bible. j'étudiais les deux livres en parallèle. Et plus je lisais, plus j'étais attiré par la Bible. Il finit par croire au message de l'Évangile. Quand il en parla à son père, celui-ci le mit à porte. Toutefois, ne se décourageant pas, Zaki, qui se fit baptiser dans les mois suivants, il dut prendre la fuite. Plus tard, il est revenu sur son île de Java occidentale pour que les autres chrétiens d'origine musulmane bénéficient de son expérience. Aujourd'hui, il les aide à monter de petites entreprises et à se relever financièrement quand eux aussi ont été rejetés par leur famille.
Merci. Dans le psaume 119, verset 74, il est écrit « Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. » Et c'est vrai, mes amis, lorsque nous voyons un frère qui est persécuté à cause de sa foi et qui tient bon, nous qui aimons le Seigneur, et lorsqu'on le voit, quelle est notre réaction? C'est de rendre grâce à Dieu. Dire Seigneur, merci parce que tu tiens ce frère. Merci parce que cette sœur tient bon dans ta grâce. Et c'est vrai que lorsque les bien-aimés tiennent bon dans la foi, font de bons choix, ça nous encourage. Ça nous aide, nous aussi, à persévérer et à se dire que si moi, je me retrouve dans la même situation, Dieu aussi m'aiderait. Le fait de voir, le fait d'entendre de tels témoignages, ça doit nous encourager. Parce que ces bien-aimés ont fait le bon choix. Ils ont fait le bon choix parce qu'ils ont mis leur confiance dans le livre. Parce que le livre est devenu leur trésor. Aussi, dans le psaume 119, verset 105, que nous connaissons tous celui-là, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et c'est vrai que la parole de Dieu est là pour nous éclairer, pour nous aider à faire le bon choix. C'est pas toujours facile, je reconnais. C'est pas toujours facile de faire le bon choix. Si je regarde à une vue humaine, si je regarde à mes pensées, si je regarde selon la mentalité, selon la pensée de ce monde, je ne peux pas faire de bons choix. Mais en revanche, si je me laisse éclairer, guider par la parole de Dieu, alors le livre m'aidera à faire le bon choix. Et tous ces bien-aimés qui sont persécutés à cause de leur foi, c'est parce qu'ils ont fait le bon choix. Ils ont fait le choix de tenir ferme parce que la parole de Dieu les éclaire. Et troisièmement, le livre nous aide aussi à témoigner dans un environnement hostile. Quelle est la réaction normale de l'homme? Quelle est la réaction normale du chrétien lorsqu'il y a un obstacle, lorsqu'il y a une opposition, lorsqu'il y a une épreuve, lorsqu'il y a de l'adversité, lorsqu'il y a l'opposition? Lorsqu'il y a des tribulations, quelle est notre réaction normale? On se braque. On ferme la bouche. On ne dit plus rien. Parce que devant nous, il y a un obstacle. Et c'est pourquoi, malheureusement, en Occident, l'Église n'avance pas aussi vite qu'elle devrait le faire. Parce que tout naturellement, nous, on se braque. Mais que font les chrétiens persécutés à cause de leur foi? Qu'est-ce qu'ils font, eux? Curieusement, ils ont choisi le contraire. Au lieu d'abandonner, au lieu de fermer la bouche, au lieu de renoncer à la mission qui est de témoigner de Jésus-Christ, ils vont continuer, mes amis. Et ça, c'est grâce au livre, grâce à l'enseignement de la parole de Dieu, grâce à l'exemple de Jésus-Christ, ils ont trouvé un modèle à suivre. Ils ont trouvé un exemple à ressembler. Et c'est grâce au livre que ses frères et ses sœurs sont prêts, au péril de leur vie, à rendre témoignage. Parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes tous appelés à témoigner du Seigneur autour de nous. Tous. Nous sommes tous appelés à entrer dans la mission merveilleuse du Seigneur qui est de faire de toutes les nations des disciples. Que les moments soient favorables ou pas, nous sommes appelés à témoigner. Mais alors, pour que nous puissions témoigner face à l'hostilité, c'est uniquement au travers de la Bible, au travers du livre. C'est le livre qui aide les amis à pouvoir témoigner. Un dernier exemple. Non. C'est bon.
Allô? Non. Ah bon. Ce dernier témoignage, c'est en Ouzbékistan. Lynn n'en revenait pas. Cela faisait des années qu'elle n'était pas retournée dans ce village. Cette femme chrétienne retourne régulièrement dans son pays d'origine, l'Ouzbékistan, où sa foi est connue de tous. Lors d'un de ses séjours, il y a plusieurs années, elle était passée dans un petit village où une nouvelle mosquée venait d'être construite. Le mollah lui avait fait visiter le bâtiment. Le mollah fut surpris quand elle lui dit qu'elle espérait que la parole de Dieu serait prêchée dans cette mosquée. Et quand Lena lui a proposé un Nouveau Testament en langue ouzbek, il a pris le livre, l'a embrassé, puis l'a serré contre son cœur. Le mollah a traité ce Nouveau Testament avec un profond respect. Plus tard, lorsque Lena est allée à nouveau visiter ce village, elle était loin de se douter de ce qui s'était passé depuis son dernier séjour. Le mollah est venu à sa rencontre, alors qu'elle était encore en chemin, et dès qu'il l'a vue, il s'est écrié « Ma fille, te revoilà enfin. Te rappelles-tu de ce Nouveau Testament en ouzbek que tu m'as donné la dernière fois que tu es été ici ? Je t'en suis tellement reconnaissant. Maintenant, j'ai quelque chose à lire tous les vendredis dans notre mosquée. J'ai un livre saint qui montre le chemin vers Dieu dans ma propre langue. Je ne comprenais pas les autres livres que j'avais, mais celui-ci m'aide à préparer mes sermons et à donner de l'espoir à ceux qui écoutent. »
Amen. Mais alors, lisons ensemble, et c'est notre dernier texte, mes amis. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 8 et 9. On va même lire à partir du verset 6, voilà. 6 à 8, voilà. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 6 à 8. « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. » Ces chrétiens ont reçu la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations. Ils ont tenu ferme. Et lorsque les chrétiens persécutés dans leur pays lisent ce passage, lisent que avant eux, d'autres ont été persécutés, mais qu'ils ont tenu ferme, ça les encourage. Nous-mêmes, dans un pays libre, grâce à Dieu, lorsque nous n'avons pas la même forme de persécution, je le reconnais. On ne va jamais, avec un fusil, me persécuter à cause de ma foi. C'est vrai. Mais lorsque nous lisons des témoignages de frères et de sœurs qui, en 2015, sont persécutés à cause de leur foi, mais qui tiennent bon, ça nous encourage. J'espère que ça vous encourage. Pourquoi moi, ça m'encourage dans ma foi, de savoir que je n'ai pas la persécution comme eux, mais j'ai la même foi qu'eux, et eux, ils tiennent bon. Donc, et c'est vrai que ça nous pousse à prier pour eux et à rendre grâce au Seigneur. Donc, pour terminer, c'est une petite conclusion. Quelle est la place que nous donnons au livre? Quelle est la place que nous voulons donner au livre? Avons-nous appris à vivre le livre? Alors que Dieu nous aide non seulement à être le peuple du livre, mais que Dieu nous aide à vivre le livre au quotidien pour sa gloire. Amen.